The FM. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado diffusion le bulletin F1. Je suis votre animateur Abdou Sall et ceci est l'épisode numéro 4, aussi appelé l'épisode numéro Lando Norris.
Pourquoi Lando Norris?
Ben, parce que c'est le numéro de course du plus jeune pilote actuellement en 2019. C'est quelqu'un qui aime les mèmes sur les internets. Et bon, je suis sûr qu'il en a fait un après le Grand Prix de Chine, quand il a été sandwiché par Kvyat et Carlos Sainz. Et il en a fait probablement après son abandon lors du Grand Prix d'Espagne. On en reparlera de toute façon.
J'espère.
Oui, parce qu'au menu cette semaine, on revient entièrement sur la 5e manche du championnat du monde de Formule 1 en 2019, le Grand Prix d'Espagne. Et on inaugure une nouvelle chronique en route vers la Formule 1, puisqu'on va revenir sur la Formule 2 et la toute nouvelle Formule 3. Pour aujourd'hui, je suis en compagnie de mon co-animateur, Brian Wimette. Comment vas-tu?
Bonjour Abdou, ça va très bien toi?
Oui, ça va très bien, merci. Bon, j'ai un petit peu mal à la gorge, j'ai des allergies, mais ça va bien se passer.
Bon.
Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ! Alors, on revient sur le Grand Prix d'Espagne, 5e manche du championnat du monde 2019 de Formule 1, la première de la saison en Europe, puisqu'après on s'en va à Monaco, on fait une petite pause à la maison à Montréal, avant de retourner en France, et ensuite on s'en va en Autriche, bref, jusqu'en Italie au mois de septembre. Alors, Brian, si tu veux bien nous donner le top 10, ceux qui marquent des points pour le Grand Prix d'Espagne 2019.
Donc, on commence encore avec un doublé Mercedes pour commencer. Donc, Hamilton P1, Bottas P2, avec 4,074 secondes d'écart. Max Verstappen de la Red Bull, P3.
Impressionnant.
Impressionnant, oui. Les deux Ferrari un petit peu décevants, Vettel P4, Leclerc P5, Gasly P6, impressionnant pour sa part, pour être honnête.
Ouais.
Magnussen P7, Sainz P8, Kvyat P9, et Grosjean ferme le top 10 avec la Haas en P10.
En 11e place, on retrouve Alex Albon sur la Toro Rosso. En 12e et 13e place, les Renault de Daniel Ricciardo et de Nico Hülkenberg. 14e, Kimi Raikkonen. 15e, Sergio Perez. 16e, Antonio Giovinazzi. 17e, George Russell. Et 18e, Robert Kubica. Oui, vas-y.
Les deux pilotes qui n'ont pas terminé aujourd'hui, c'est Lance Stroll et Lando Norris. Les deux qui ont eu au 53e tour un accrochage quand même assez franc de la part de Norris. Je pense que Norris a coupé l'entrée de virage un peu trop rapidement, puis Stroll lui s'est pas pris assez large, puis a pas pu le laisser passer, puis les deux se sont accrochés, puis ça s'est terminé au niveau du gravier.
Et ça a amené une voiture de sécurité dans une course qui, on va se le dire, ce n'était vraiment pas excitant.
Non, c'est vraiment une course plus encore plus plate que Azerbaïdjan, pour être honnête avec toi. Pas d'action, une course simple, pas de beaucoup de batailles. Les seules batailles qu'on pourrait vraiment se rappeler, c'est vraiment l'échange entre les deux Ferrari en plein milieu de la course.
Ouais.
Puis ce qui est excitant aussi, l'arrêt au plus vraiment manqué des Toro Rosso.
Oh, ça, on va en reparler parce que ça aurait pu donner un double. Ben, en fait, on aurait pu voir les deux Toro Rosso dans le top 10, mais ça, on en reparlera lorsqu'on va faire le tour des équipes. Brian, je vais te demander, même si tu as regardé la course un peu plus tard que moi,
ouais.
Quelles sont tes performances, contre-performances du jour, ainsi que le moment cocasse?
Ma performance du jour, littéralement, c'est mon coup de cœur, c'est Max Verstappen. Il a été vraiment simple comme pilote. Il a pris les opportunités dès le départ et il a il a gardé sur clair comme on savait tout ce qui s'en allait, puis c'était pour le P1. On sait qu'il n'y a pas la meilleure voiture, on sait que il y a encore de la compétition qui se fait entre Red Bull et Ferrari, mais on peut vraiment voir que Verstappen, c'est un pilote de niveau, même s'il est jeune, même s'il manque encore de maturité, on peut voir que il est très performant comme pilote. Mes contre-performances, encore là, je vais encore revenir à la semaine passée, ça va être mon même choix que la semaine passée, c'est les Ferrari. Les Ferrari ont été très, 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 très décevantes. Je trouve que les stratégies que Ferrari utilise, c'est vraiment les yeux bandés. Les yeux bandés, c'est la meilleure description que je peux donner. Si on regarde l'écart entre les deux, en plein milieu de la course, il y avait un écart de même pas une seconde entre les deux voitures, puis on voit à la fin, tu sais, ils ont un écart de 13 secondes. 13 secondes entre les deux voitures, puis tu sais, c'est pas Leclerc, c'est pas un mauvais pilote, Vettel non plus, c'est des champions, c'est un champion du monde, puis les deux c'est des pilotes de haut calibre.
Ouais.
Mais on dirait que la voiture cette année ne performe pas comme on voudrait, puis on n'a pas le mental chez Ferrari, surtout avec le départ de Maurizio Arrivabene, puis ouais. On a un nouveau team director aussi qui fait comme tout changer le processus et tout, puis c'est vraiment un processus d'adaptation, mais l'adaptation a comme, on voit que ça l'affecte le pilotage, ça l'affecte l'équipe, ça l'affecte l'écurie au complet chez Ferrari.
Définitivement. Et puis, excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu dis, on prend des stratégies aux yeux bandés, là, ça me fait penser à quoi?
Ça
me
fait penser à quoi?
Le film Bird Box sur Netflix, ou bien même là un crossover entre Bird Box puis Black Mirror Bandersnatch, là où tu prends les décisions. J'ai l'impression que c'est ça que fait
un peu à l'aveuglette aussi, tu
à
vois.
À l'aveuglette.
Puis moment cocasse de la course, j'en ai deux.
Ah oui.
Définitivement Toro Rosso. Les pilotes étaient exceptionnels, mais je pense qu'il y a eu une mauvaise synchronisation entre l'équipe au puits et les ingénieurs de course. Lors du premier arrêt au puits, des deux Toro Rosso, il y a eu un call-up qui a été fait pour les deux voitures.
Ouais.
Une après l'autre. Ça a été, je pense, ça a été Kvyat, puis ensuite ça a été Albon qui est rentré. Kvyat, quand il est rentré, je sais pas ce qui s'est passé, les pneus étaient pas prêts. Kvyat est resté là en attente pendant facile 4 à 5 secondes de plus qu'est-ce qu'il fallait.
Ouais.
Finalement, Kvyat a fini par sortir des puits. Albon rentre ensuite à l'équipe. Les pneus sont pas plus prêts. Wow. Ça prend énormément de temps. Puis au niveau de la roue avant gauche, on voit que les mécaniques ont de la misère un peu à la placer. Puis ça, c'est des précieuses secondes que c'est des précieuses secondes que les pilotes ils perdent à être au puits. Parce que si on voit là, Albon aurait pu rentrer dans les points. Kvyat a été chanceux. Il a profité des deux petite bad luck de Grosjean, on va se le dire.
Ouais.
Des deux petits dérapages, des deux petites sorties de route de Grosjean.
Ouais.
Qui a permis à Kvyat de sortir un petit peu du lot puis de profiter un petit peu de cette situation-là. Mais Albon, littéralement, c'est vraiment un coup de malchance parce qu'il pilotait très bien aujourd'hui.
Ouais.
Il était constant, il était rapide aussi. Il battait son coéquipier, il était tellement à plat de couture.
Ah,
puis, c'est juste vraiment la mauvaise chance qu'on va dire de même.
C'est ça.
Sinon, mon deuxième, vraiment, c'est l'accrochage Stroll puis Norris. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On va se le dire. Au tournant, on voit clairement que Norris s'en vient pour faire un dépassement.
Ouais.
Puis je sais pas ce que Stroll a eu comme idée. Stroll a décidé de coincer l'intérieur, fermer la porte à Norris.
Ouais.
Puis ça a été catastrophique. Puis on voit que les deux voitures se sont juste, ça a mené à rien. Les deux voitures se sont ramassées dans le gravel. Puis ça a été un DNF pour les deux.
Ben, moi, je vais amener mon grain de sel parce que je pense que c'est un incident de course. Parce que,
oui,
Stroll, ben, en fait, ça a été classé officiellement par la FIA comme un incident de course. Mais, moi, je trouve que, Stroll aurait dû laisser un peu de place, mais à sa défense, il a fermé la porte quand il a cru que Norris était déjà derrière. Est-ce que Norris aurait dû probablement
freiner, reculer un peu,
c'est ce que je pense aussi. Et c'est là où l'incident de course se passe, c'est parce que les deux, disons, ont voulu tenter quelque chose qui, en principe, aurait dû être fait proprement, mais ça a été juste légèrement mal jugé de la part des deux. Donc,
exact.
Je comprends que la majorité a mis, la majorité des gens ont mis Stroll coupable, mais ce qui peut être vrai. Mais en même temps, Norris.
Faut voir les deux côtés des choses aussi.
C'est ça, il faut voir les deux côtés des choses.
Norris qui a essayé de peut-être profiter de cette chance-là. Lance Stroll a fermé un peu la porte.
Ouais.
Il y a peut-être un mauvais jugement de la part de Norris. Mais tu sais, c'est ça, c'est des accidents de course. Puis ça, on va pas blâmer tout le temps. C'est ça. Ça l'arrive, c'est des choses qui arrivent.
Et même, je pense aussi que c'était une excuse pour les gens de dire « Ah, que qu'est-ce que c'est le fils à papa qui ne mérite pas sa place en Formule 1. » Justement à cause de genre de trucs comme ça.
Faire mettre la force sur ses épaules à lui. Puis blâmer toujours le petit pilote, le petit newbie qui viennent de rentrer. Là.
Ouais, ou le pilote riche aussi, là.
Exact.
Donc, ça, c'était un moment cocasse.
Ouais.
Ma performance du jour, j'en ai trois. Lewis Hamilton.
Ouais.
De surcroît, parce que...
Très bon départ, hein, Lewis Hamilton.
Oui, très bon départ. Parti deuxième.
Ouais.
Il n'a jamais été inquiété par la suite. Max Verstappen... Un peu par défaut, parce que il a mérité de finir troisième grâce aussi à son bon départ et à l'opportunité dont tu parlais, qu'il a réussi
la
à...
La petite chamaille chez Ferrari, puis que lui, il a juste vu l'opportunité, puis qui est directement... il en a profité, littéralement. Il a profité du défaut des deux Ferrari pour prendre sa place, puis il l'a très bien fait, puis on voit que ça lui a porté fruit, littéralement.
Ah oui, clairement. Alors, et c'est son deuxième podium de la saison, donc il le mérite encore là. Et je pense qu'on va en reparler. Carlos Sainz,
le héros
de la foule, le nouveau héros de la foule, dans des moments où on n'est pas certain si le Grand Prix d'Espagne va revenir aux dépens, évidemment, parce que comme je l'expliquais dans le dernier podcast, le Grand Prix d'Espagne pourrait être remplacé par celui des Pays-Bas à Zandvoort d'ici la saison prochaine. Donc Carlos Sainz qui s'est pas bien qualifié, éliminé en Q2, battu par Lando Norris, mais ça on en reparlera, a quand même bien fait dans les circonstances, une belle attaque à la relance.
Belle remontée. Je trouve que Sainz, il s'adapte énormément mieux avec la McLaren qu'avec dans le temps qu'il était avec Renault. Je trouve que Sainz, il fait un incroyable travail. Il montre qu'il est capable de piloter parce que c'est un bon pilote.
Ouais.
C'est un très bon pilote. Il y a eu des défauts de parcours par-ci par-là, mais on voit que il veut se démarquer. On voit qu'il veut performer, puis qu'il veut faire sa place chez McLaren. Tu sais, il est pas dans n'importe quelle écurie non plus. Il est une des dans les écuries les plus renommées, la plus grande renommée en F1 quasiment.
C'est ça.
Puis je pense qu'il veut faire sa place, puis il veut faire partie des grands.
Exactement. Alors, oui, Sainz mérite ma performance du jour. Daniel Kvyat aussi.
Ouais.
Je viens d'y penser. Kvyat, as-tu vu le dépassement qu'il a fait sur Raikkonen au virage 4?
Oui.
Par l'extérieur, s'il vous plaît.
C'est pas un virage où est-ce qu'on voit tout le temps les pilotes dépasser. Surtout que c'est un virage qui est très rapide, très serré aussi.
Mm-hmm.
Puis, Kvyat pourrait... je trouve que son développement chez Ferrari lui a énormément apporté cette saison.
Ouais.
C'est un pilote que là on voit que c'est plus il est plus téméraire comme il l'était. Il a gagné en maturité comme je disais au dernier podcast.
Oui.
Puis je trouve que il pilote très bien puis que on voit que les erreurs, il a appris de ses erreurs. Il a vraiment appris de ses erreurs.
Ah oh, oui, définitivement. Contre-performance du jour. Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Je penserais pas, mon cher. Je pense qu'on est capable de tout se faire une idée sur qui t'as...
Ouais.
Ouais.
Les rouges.
Ouais, les rouges.
Les rouges. Les rouges Ferrari, très décevants. On en reparlera, là, mais...
Le pire, c'est même pas un problème de performance. La voiture est très, très, très performante.
Ouais.
Oui, peut-être un peu moins que les Mercedes, mais ils sont capables d'être dans le lot du duo. Puis c'est juste vraiment un problème de stratégie qui fonctionne pas chez Ferrari.
Oh oui.
Ils ont fait l'erreur de mettre deux pilotes numéro un. Ils ont définitivement on voit que Leclerc, il a une tête dure, puis il a un plan dans sa tête, puis on sait qu'il veut devenir champion du monde.
Mais
je trouve que lui, il se met beaucoup trop de pression, puis il pour son âge, il se met beaucoup trop d'attente. Pour ce qui est de Vettel, c'est un vieux de la vieille. Ben, vieux de la vieille, je veux dire. c'est un champion du monde. Il est encore très bon, à même titre que Lewis Hamilton. Je ne comprends pas ce qui se passe chez Ferrari en ce moment. Pour être honnête avec toi, on dirait que le départ de Maurizio Arrivabene, ça aurait été vraiment un coup vraiment dans au niveau de l'estomac pour Ferrari. Puis, moi, c'est ce que je pense. Ouais. Ça a fait en sorte que au niveau administratif, puis au niveau des stratégies de course, au niveau de la mentalité chez Ferrari, ouais, ça l'a probablement changé aussi à cause de ça.
Mais je pense que oui, peut-être le départ d'Arrivabene a fait un peu mal, mais remarque que Binotto est avec Ferrari depuis une vingtaine d'années. Il a commencé évidemment au bas de l'échelle, mais presque comme ça. Puis il a gravi les échelons. Il a travaillé avec Michael Schumacher. Il a travaillé dans la Dream Team avec Ross Brawn et Jean Todt, qui est aujourd'hui le président de la FIA. Il a vu passer les grands pilotes. Il a évidemment travaillé avec Fernando Alonso. Donc il connaît un peu la stratégie. Il connaît un peu comment ça fonctionne chez Ferrari. Mais là, le truc, c'est est-ce qu'il est capable de l'appliquer maintenant qu'il est à la tête de la plus grosse écurie de Formule 1 au monde? Parce qu'il a été directeur technique, donc il a la connaissance que Maurizio Arrivabene n'a pas. C'est la connaissance technique. Donc, est-ce qu'il se met lui aussi de pression comme avec Leclerc? Peut-être. Mais je pense que, parce que, n'oublie pas aussi que lors des deux dernières années, 2017-2018, Ferrari était vraiment dans la boîte de vitesse de Mercedes. Elle était capable de rivaliser.
Oui, vraiment.
Mais c'est surtout des problèmes de stratégie qui les ont,
Puis des petites bad luck par-ci par-là. Ouais. On se rappelle un temps au Hockenheimring avec Vettel qui menait la course, puis qu'une petite erreur de course l'a fait sortir littéralement dans une plate-bande. C'est des petites erreurs comme ça qui font perdre des précieux points pour le championnat. Là.
Ah ouais, puis maintenant, regarde, ils sont à 96 points de Mercedes.
C'est rattrapable!
C'est rattrapable!
C'est rattrapable, mais encore là, est-ce que Ferrari vont, dans les prochaines évolutions moteurs, dans les prochaines ajustements au niveau aérodynamique, est-ce que ça va balancer, contrebalancer le fait que Mercedes, vous dites Mercedes, pas parce que Ferrari évolue que Mercedes évolue pas non plus.
Ouais.
T'sais, est-ce que Ferrari va être capable de compenser le manque qu'ils ont créé avec Mercedes?
C'est ça. Et écoute, avec ce qu'on a vu en Ligue des Champions au soccer, avec mon Liverpool qui a réussi à remonter, qui a marqué 4 buts contre Barcelone pour les battre 4-3 au cumulatif des buts, c'est possible pour Ferrari de revenir. Il reste encore une quinzaine de courses à la saison.
Sur 21, donc
il reste
16 courses encore.
C'est ça, il reste 16 courses. C'est pas encore fini.
Pas encore perdu. Non, c'est pas perdu du tout. C'est juste que, tu sais, on sait jamais ce qui peut se passer dans une écurie aussi. Hein. On sait pas. Peut-être qu'un jour, ils vont décider de mettre, Vettel dehors, dans une autre écurie. Mais ça n'arrivera pas.
Ça n'arrivera pas.
Vraiment, on sait pas ce qui peut se passer. Si Leclerc fait pas le job, on sait qui s'en va chez on sait quasiment qui s'en va chez Ferrari après.
Ouais, mais je sais, si tu parles de cette personne, je sais pas, il est pas encore prêt.
Ben, écoute, peut-être qu'il est pas encore prêt, mais
probablement, tu parles de Mick Schumacher?
Non! Je parle de Verstappen. Verstappen, puis Mick Schumacher, c'est deux pilotes montants.
Ouais.
Qui seraient peut-être capables de remplacer un certain Charles Leclerc s'ils ne font pas le travail.
Je pense pas que Ferrari voudrait sacrifier Leclerc.
C'est clair que Ferrari a Leclerc depuis longtemps dans le junior team. On a vu l'évolution avec Leclerc puis Jules Bianchi durant des années, mais on voit que peut-être, admettons là, Vettel, un petit bad luck chez Vettel, on peut savoir qui va monter, qui va prendre sa place.
Ouais, mais ça, c'est à suivre.
C'est à suivre.
Et pour compléter, parce que j'ai un moment cocasse, en fait j'en ai deux, moi aussi. Moment cocasse, ça personne ne l'a remarqué, à part, c'était pas diffusé, mais c'était sur internet. Les écrans de télé de la salle de presse se sont éteints en pleine course.
Pour de vrai?
Ouais, je te jure. J'ai regardé des tweets de journalistes qui étaient dans la salle de presse, puis genre, t'avais une quinzaine, t'avais une photo de 15 écrans de télé complètement noirs.
C'est quoi la raison?
Je sais pas, probablement un problème électronique ou quelque chose du genre, là. Okay. Mais t'es, quand ça tombe durant une course qui n'avait pas beaucoup d'action, ben en fait, la première partie où il y avait pratiquement rien, je pense, ça a fait un peu de bien, mais c'était drôle quand même. l'autre aussi, c'est le vendredi, lors des essais, t'as Tom Stallard, l'ingénieur de course de Carlos Sainz, qui dit « Hello Darren, it's Tom ». Mais en fait, il le disait à la radio de Carlos Sainz. Donc, okay. Il appelait Darren, qui est un ingénieur dans l'usine de McLaren. Tom Stallard disait à Darren, « Peux-tu regarder tel truc concernant les pneus de Carlos? » Mais en vérité, c'est que la radio était destinée à... Il a appuyé sur le bouton de radio à Sainz, donc il a entendu ça. Puis Sainz a répondu, « Hello Tom, I'm Darren.
» J'ai pas vu le clip, mais je devrais regarder.
Ah, mais c'est sur le compte Instagram de la Formule 1.
Ok.
Donc tu iras voir ça, c'est vraiment drôle.
Ok, attends, je vais sortir ça, je vais regarder là.
Mais c'est ça, donc en gros, l'ingénieur de piste de Sainz dit, « Hello Darren, it's Tom. » Il a dit « Oh, pardon, Carlos. » Et là, Sainz qui répond.
C'était-tu voulu ou c'était pas voulu?
Non, c'était pas voulu. C'était un accident. Mais c'était drôle quand même. On va vous faire écouter la conversation en question. Si vous nous écoutez Formula 1, please, mettez pas de copyright.
Darren, it's Tom. Sorry, Carlos.
Hello, Tom.
Ouais, donc c'est ça, c'est un de mes moments cocasses de cette course.
Banter Saints.
Ah oui, ah Carlos. Maintenant, allons voir qui nous a donné ses évaluations. On a mon bon ami Jean-Sébastien Barbeau sur Twitter qui me dit « Perfo du jour, attention, ça c'est de la qualité, nous tous qui ne se sont pas endormis par ennui devant l'écran. »
Oh, wow!
Ouais. Et oui, parce que, honnêtement, on va se dire, la course était plate. Toi, t'es chanceux, tu l'as regardé après. Ouais. Mais moi, je l'ai écouté en direct parce que, en même temps, il y avait la dernière journée de la saison de la Premier League au soccer. Puis, t'avais Liverpool puis Manchester City qui jouent en même temps. Donc, c'est un peu balancé mes intérêts pour ce dimanche matin.
Là, on a la réponse de Francis Paquette. Performance du jour, Hamilton et Verstappen. La contre-performance du jour, elle a voix à Ferrari.
Évidemment.
Puis le moment cocasse, c'est que Vettel est pilote et directeur des stratégies chez Ferrari.
Oui,
parce que... C'est littéralement lui qui décide qui passe, qui ne passe pas, tu sais?
Exactement.
Entre Pierre Leclerc.
Ah ouais, puis en plus, quand il a dit « Arrêtez-moi n'importe quand, là, ou bien même maintenant pendant la course, alors que ses pneus étaient pas mal finis après avoir bloqué les roues au départ », ça corrobore un peu avec ce qu'il disait. Alors, maintenant, nous allons passer à la revue des écuries. On a parlé en long et en large de Ferrari, donc on a une écurie en moins. Encore une fois, parce que... sérieusement, cette écurie, on comprendra pas, mais on va parler de celle qui a bien fait, encore une fois,
pour la
cinquième doublé consécutif, Mercedes. Hamilton qui a gagné, Valtteri Bottas deuxième. Non seulement Hamilton gagne, mais il obtient finalement le point boni pour le meilleur tour en course.
J'ai comme une relation amour et haine avec Mercedes.
Ah ouais?
Laisse-moi t'expliquer.
Ok.
Mon amour pour Mercedes, c'est que c'est une très belle institution, c'est une très belle écurie, ils sont performants au bout, c'est les meilleures voitures qui ont sur le terrain pour toutes catégories confondues, Formule 1, tout.
Ouais. Et tu conduis une Mercedes d'ailleurs?
Je conduis une Mercedes d'ailleurs, puis je peux vous dire littéralement que c'est les plus belles voitures, les voitures allemandes, c'est les voitures performantes, sont simples, sont minimalistes, mais ouais. La performance est de haut niveau, mais... Moi, ce que j'aime pas chez Mercedes, c'est qu'ils ont fait la même gaffe avec Nico Rosberg, mais deux pilotes qui veulent le championnat, qui ont la voiture pour le championnat, ils ont toujours une préférence pour Lewis Hamilton. Puis j'aimerais ça, moi, comme, mettons, comme directeur chez l'écurie, donner une chance à Bottas. C'est clair que c'est une compétition. Genre, les pilotes le disent, le pire ennemi que tu peux avoir sur une piste de course, c'est pas les autres écuries, c'est ton partenaire.
Exactement.
Puis, je comprends ça. C'est deux pilotes qui veulent foncer, qui veulent le championnat, qui veulent le titre de champion du monde. Mais l'affaire, c'est que ça ne doit pas se décider au niveau de l'écurie. Ça devrait se décider entre les pilotes quand tu pilotes, quand tu courses avec ton partner.
Mm-hmm.
Je pense que c'est la meilleure façon pour démystifier quel pilote est le meilleur. Tu devrais pas, moi, mettons, comme ingénieur de course, je dirais pas à mon pilote, ralentis pour laisser passer le pilote numéro 1. Moi, je dis, tu veux le Grand Prix? Excusez. Tu veux gagner ce Grand Prix-là, course, puis bat ton partner.
Mais c'est ça que Bottas fait. Cette année, on parle beaucoup du Bottas 2.0, celui qui mange du porridge avant ses courses. Mais on voit, là où je suis pas d'accord, c'est que Mercedes les laisse courir parce que tu l'as vu, on l'a.
Moi, je pense qu'il y a une part de réprimande, je pense, à part de Bottas.
Je pense pas parce que il y avait des courses où le Finlandais l'année dernière allait, si on met de côté toutes les malchances qu'il avait.
Azerbaïdjan.
Entre autres Azerbaïdjan, où il était pas très très performant. Cette année, écoute, il a trois pôles consécutifs. Alors que l'année dernière, il en avait une ou deux. Donc, il a déjà surpassé le total en un an. Donc, moi, je pense que Mercedes les laisse rouler. Mais en autant que ça ne fasse pas comme Rosberg et Hamilton, où justement...
En Espagne,
les deux se sont accrochés. Je pense que Bottas et Hamilton sont assez intelligents.
Mm-hmm.
Et on l'a vu. Je sais qu'il y a eu des problèmes avec l'embrayage au départ, mais il s'essaye.
Uh-huh.
C'est ça le truc, mais il fait face à une bête, un quintuple champion du monde, le GOAT, le greatest all of time de notre génération. Donc,
c'est une pression. Là.
C'est une pression et Valtteri est en train de la faire parce que oui, je sais que c'est une bataille à deux chevaux.
Puns intended.
Mais je pense que Bottas cette année a haussé son cran et oui, il va devoir faire attention à Hamilton pour ne pas qu'il fasse accrochage.
Mais moi, je pense que c'est sa dernière année de contrat aussi, hein?
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est sa dernière année de contrat, puis je pense qu'aussi, il y a une raison pourquoi il veut performer, c'est que je pense que, rendu là, Bottas, il n'y a rien à perdre. Si, par exemple, il n'y avait plus de contrat à la fin de l'année, au moins, il sortirait de là champion du monde.
Ouais, puis ben, en même temps, il y a un grand Français, qui a quoi, deux ou trois ans plus vieux que toi, qui est sur les lignes de touche, hein, qui pourrait le remplacer.
Oui, bien sûr. Ben, on parle d'Esteban Ocon.
Exactement.
On parle d'Esteban Ocon, mais Ocon, c'est un pilote c'est ça, qui est très jeune. Il y a même pas, il y a 2 ans plus que moi, lui. Il y a 22 ans.
Ouais.
22 ans, 23 ans. Puis ouais, on voit que c'est un pilote qui a fait ses preuves chez Manor, il a fait ses preuves chez Force India. Petite bad luck à l'achat de Racing Point. Mais ce pilote-là est toujours, on se rappelle, est toujours pilote d'essai chez Mercedes.
Ouais.
Lui, c'est Lance Stroll, il monte pas au niveau des échelons puis qu'il performe pas. Lui, c'est le prochain qui embarque puis il a fait ses preuves.
Ouais.
On sait qu'il pilote. On sait qu'il, lui aussi pourrait être possiblement champion du monde si il fait sa place puis qu'il montre qu'il est capable.
C'est ça. Et je trouve que même là, dans le temps avec Williams, Bottas était quand même quelqu'un de relativement constant.
Oui, très constant. Ben, je pense qu'il y avait un ou deux DNF dans la saison 2016-2017.
Ouais.
Pas beaucoup de... Non, 2016, excuse-moi, parce
ouais,
que 2017, Bottas est rentré chez Mercedes.
Ouais.
2016, ça a été une des saisons les plus performantes pour Bottas chez Williams avant qu'il y ait la dépression, comme je disais, de Williams 2017-2018-2019 même. C'est vraiment ouais, une régression totale chez Williams.
Ouais.
Mais Bottas, je pense que Mercedes, ils ont pris Bottas dernière minute, puis je pense que ça a été un bon move à part de Mercedes.
C'est ça. Donc, Bottas, Hamilton, ben là, les deux premiers, deuxièmes, je
respectivement
pense.
Respectivement 26 et 18 points, ce qui est quand même bon, qui donne une bonne avance des Mercedes par rapport au Ferrari puis aux Red Bulls.
Exactement. Puis aussi, il faut noter que c'était une belle manière de rendre hommage à Dieter Zetsch, le PDG de Mercedes-Benz, qui prenait sa retraite, qui va prendre sa retraite dans 10 jours. Donc, c'était son dernier Grand Prix de Formule 1.
Il est pas juste PDG de Mercedes, lui, il est PDG de Daimler au complet.
C'est vrai, j'ai oublié.
PDG de Daimler au complet. Daimler, je peux vous dire, c'est la grosse filiale qui regroupe les grosses compagnies style Mercedes, principalement. Mm. Si on parle de Daimler, on parlait de tu sais, on parle de Mercedes, on parle de Mercedes AMG, on parle de Smart Freightliner, compagnie de camions, en partenariat avec Mitsubishi Fuso Truck, c'est eux qui font les camions aussi avec Mitsubishi, tout ce qui est filiale Car2Go, c'est tout eux qui ont ça, puis c'est vraiment une des plus grosses filiales de l'automobile au monde. Tu sais, c'est une grosse institution.
Ouais, donc si Zetsch part la tête haute en voyant son écurie de Formule 1, encore une fois, faire un doublé pour une 5e fois consécutive. Et devine quoi, je viens de regarder ça. En 5 courses, Mercedes a plus de doublés que Ferrari en a depuis toute la décennie actuelle.
Quand même. Quand même. Ça remonte à quelle année, la dernière? C'est avec Schumacher, non?
Non, cette décennie, genre 2010.
Ok.
Donc, imagine, ça fait mal à voir.
Ben, ça fait pas mal pour Mercedes, mais ça fait mal aux autres écuries, ça, c'est sûr.
C'est ça.
C'est sûr.
Brian, est-ce que tu veux que je te laisse parler de Red Bull?
Oui, comme toujours. Mais en fait, les Red Bull, belle performance de Max Verstappen. Bon, très bon départ. Comme un champion. J'ai rien à dire, pour être honnête, sur les Red Bull, pour être honnête avec toi. Gasly, belle remontée. Beau contrôle de voiture. Je trouve qu'il s'améliore de jour en jour, de course en course. Je trouve qu'il y a une amélioration qui se fait. C'est sûr qu'il y a eu on voit qu'il y a eu un trouble d'adaptation entre Toro Rosso puis Red Bull. Néanmoins, qu'il a déjà piloté des voitures commanditées par Red Bull. Il connaît les performances Honda mieux que Verstappen, littéralement. Il connaît les performances Honda. Il sait en quoi ils sont capables. Mais je vois vraiment que P6 pour Gasly, c'est pour le jeune français, c'est exceptionnel.
Ah oui.
Et je trouve qu'il est capable de vraiment... tu sais, il est à 19 secondes de Leclerc. Là. Même pas, il est à 6 secondes de Leclerc, si on regarde même en intervalle. Là, 6 secondes de Leclerc, c'est pas beaucoup, puis il aurait été capable de le rattraper littéralement.
Parce qu'en même temps, Leclerc, quand tu parles de Leclerc et Gasly, c'est parce qu'il y a eu la voiture de sécurité. Mm-hmm. Gasly a tenté une attaque sur Leclerc qui était bizarrement... sur les pneus durs, une stratégie d'un arrêt qui n'aura peut-être pas fonctionné, mais si Gasly avait été un peu plus agressif, il aurait tenté sa chance et allé chercher la 5e place de Leclerc.
Ça a été un 2 points facile à aller chercher en plus. En 6 secondes, c'est un écart minime. Là. 5 tours de plus, 1 seconde à chaque tour, c'est facile à faire.
C'est facile à se rattraper. Mais malheureusement, ce qui l'a un peu dérangé, c'est la dégradation des pneus parce que... Son premier relais, il s'est bien débrouillé parce qu'il s'est rapproché de Vettel qui avait de la difficulté avec ses pneus. Le deuxième a été un peu plus difficile, je pense. C'est là où il a vu le problème de dégradation, mais à la relance, là, ça s'est mieux passé.
Mais je trouve qu'aussi au niveau défensif, il y a eu un très bon contrôle au niveau de la voiture. T'sais, au niveau défensif, on voyait Magnussen qui était en arrière pas loin, puis Sainz qui était en arrière aussi, qui se battait pour la 6e place. C'est deux voitures qui sont performantes, puis on voit que les Haas sont... Ça roule avec le moteur Ferrari, tu sais, on le voit. Puis Sainz avec McLaren-Renault, c'est quelque chose que... on voit que Gasly, je pense, avait peur aussi de faire une gaffe puis que les deux autres le rattrapent en arrière.
C'est ça. Donc, pour moi, c'est définitivement la meilleure course de la saison du jeune Français.
Oui, définitivement.
Tu as parlé de Haas. On a finalement quelque chose de bon à dire à propos de l'écurie américaine.
Oui. En fait, l'écurie américaine qui termine P7 et P10, respectivement, pour Magnussen et Grosjean. Ils rentrent les deux dans les points.
Ouais.
Mais là, faut qu'on parle de Grosjean. Grosjean, qui est un pilote, qui est un ancien pilote expérimenté, qui est constant.
Oui.
Ça dépend quand.
Ouais.
Qui a fait deux grosses erreurs majeures durant la course.
Mm-hmm.
On voit qu'à chaque fois qu'il s'est tenté de dépasser quelqu'un, toujours une petite sortie de piste.
Ouais.
Les deux fois.
Là, je vais... Je vais le défendre parce que quand Magnussen l'a dépassé, en fait, c'est que les deux se sont touchés.
Okay.
Les deux se sont touchés. Donc, Grosjean était obligé d'utiliser l'échappatoire entre les virages 2 et 3 pour revenir en piste de manière sécuritaire. Ça a été la même chose avec Carlos Sainz. Donc, le fait que les deux As se soient touchés, ça a un peu dérangé le Français parce que il était à port de contrôle. Donc, il a été ensuite vulnérable face aux autres. Donc, imagine, si Albon avait réussi à le dépasser, il n'aurait probablement pas marqué de points en Espagne. Ce qui aurait été une grosse déception parce que toute la fin de semaine, il était devant Magnussen. Toute la fin de semaine, essai, qualif, course. Il a finalement eu une belle épreuve. Probablement celle qu'il aurait pu avoir en Australie, n'eût été du bis repetitis d'Australie avec l'arrêt au puits. Australie 2018, je parle. Mais ça fait du bien de revoir les deux As marquer des points. C'est sûr que peut-être ça aurait pu être 7 et 8. Moi, je pense que là où Haas aurait dû mieux contrôler ses pilotes, c'est de garder les positions. Comme ça, tu pars avec le plus de points et là, tu commences vraiment ta saison à partir de là. Puis tu te concentres sur Monaco où tu pourrais avoir une chance. Et Brian acquiesce.
Toro Rosso!
Oui, Toro Rosso avec Dani Kvyat 9e et Alexander Albon 11e à la porte des points.
Ils ont eu une belle course, ça il faut que je te l'admette, que je te le dise, ils ont eu une très très belle course, mais l'arrêt au puits qu'ils ont eu, quelle chose horrible qui ne devrait jamais se produire. Il mettait une comparaison, j'avais vu sur Instagram, une comparaison entre l'arrêt au puits des Mercedes.
Exactement.
En Azerbaïdjan.
C'était en Chine.
En Chine, oui. Le 2-2? Oui, en Chine.
Oui, c'était en Chine. C'était
le,
en Chine.
Le quick 1-2 de Mercedes, puis la catastrophe de Toro Rosso.
Oh, wow.
C'était horrible! Juste pour vous mettre en contexte, l'arrêt au puits avait été fait. La demande d'arrêt au puits avait été demandée par les ingénieurs de course de Kvyat et d'Albon en même temps. Mais je pense qu'il y a eu une mauvaise communication entre les ingénieurs au puits puis l'équipe de mécanique chez Toro Rosso. Quand ils ont vu Kvyat rentrer au puits, ça a été la catastrophe.
Ouais.
Les pneus étaient pas prêts, le matériel n'était pas sorti, l'équipe n'était pas prête à recevoir les deux voitures ensemble aussi. Faut le dire, les deux sont rentrés une après l'autre.
Mm-hmm.
Kvyat qui est arrivé, sortir les pneus, le jack et le char, changer les pneus, redescendre la voiture, puis la faire partir. C'est 4 à 5 secondes de perdu, de temps précieux perdu. Puis il y a aussi Albon, son arrêt au puits n'était pas mieux. Arrêt au puits n'était pas mieux.
Ouais.
Quand il y a eu la sortie des pneus, les pneus ont été mis rapidement, oui, mais il y a le pneu avant gauche
qui
était problématique. Une des raisons pourquoi Albon est parti 2-3 secondes plus tard que prévu, c'est que le pneu avant gauche, il était pris, littéralement. Il voulait pas en bas. Ça rimait comme il faut sur la jante.
Mm-hmm.
Puis on voit clairement que l'équipe de mécaniques ont énormément de misère. Puis je voyais les comparatifs, comme je te disais tantôt sur Instagram, entre Mercedes et Toro Rosso.
Oui.
C'est pas la même game, puis on le voit tout de suite.
Ah oh, oui. Et je pense que c'était pendant l'intervention de la voiture de sécurité après l'accrochage.
Oui. C'était durant le Virtual Safety Car que tout le monde était au ralenti quasiment. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas des positions pareilles. La relance, c'est pas pareil pour tout le monde. On sait toujours que c'est le premier qui dicte la cadence.
Ouais.
Puis, tu sais, c'est pas.
Et je pense qu'Albon, à un moment donné, était revenu derrière Sainz qui, après, ce dernier a fait une grosse charge pour aller chercher la 8e place.
Exact. Après Sainz, quand il voyait que Albon le collait un petit peu aux fesses, lui, il a pas perdu de temps. Puis, c'est là que je pense que Sainz s'est réveillé durant la course.
Ah oui. Quel dommage, mais en tout cas, Kvyat, j'en ai parlé. Belle performance. Encore une fois, en Q3 pour le russe,
ouais.
Vraiment, tu en as parlé un peu plus mature. Mm-hmm. En course aussi, a réalisé de beaux dépassements, celui sur Raikkonen par l'extérieur du virage 4. Aussi, il y en a un sur Grosjean.
Oui, virage 3.
Virage 3 aussi.
Sinon, tu sais, on voit que Kvyat, peut-être, éventuellement, un jour, si par exemple Verstappen ou Gasly décident de quitter la formation Red Bull pour une écurie plus performante, par exemple Ferrari, comme je disais au départ, peut-être que Kvyat prendrait peut-être la place chez une des... reviendrait chez Red Bull. Faire un retour chez Red Bull. Espérons que ça fasse pas comme...
2016.
Comme 2016, exactement.
Ouais, mais avec DC, on mettrait Paris en bouteille.
Ouais. Donc, là, on va parler des Renault.
Mais avant de parler de Renault, on peut parler de l'écurie qui a fini 8e.
McLaren?
Oui.
Ben oui, on peut parler de McLaren. McLaren qui ont terminé respectivement 8e, puis Lando Norris qui n'a pas terminé la course vu à un accrochage avec la Racing Point de Lance Stroll. On a un seul pilote à qui parler. De qui parler, en fait?
Ouais.
Carlos Sainz. Mature comme pilotage.
Mature, ouais.
Mature, performante aussi. La voiture était ouais. À son plus haut niveau, je pense, que de toute la saison. Puis on voit que le changement de groupe moteur McLaren-Renault, mm-hmm. avant, comme par exemple avant l'ère Honda,
ouais.
McLaren-Renault retourne en force cette année en 2019. Puis on voit que... McLaren, ça va sans dire, McLaren est le nouveau aérodynamique et le nouveau châssis. Ils ont les meilleurs châssis de la Formule 1. Ça, on va pas se le cacher.
J'en doute. J'en doute.
Moi, j'ai toujours eu comme impression que, au niveau performance aérodynamique, ça compétitionnait avec le Red Bull, ça compétitionnait avec Ferrari, ça compétitionnait avec, ouais. Avec les Silver Arrows. Puis je trouve que le seul défaut chez les McLaren, on s'entend, c'est le moteur. Le ouais. groupe motopropulseur de McLaren, c'est toujours été un petit problème. T'sais, on a connu ça avec les Honda. Ouais. T'sais, on a connu la belle époque avec Ayrton Senna, avec les moteurs McLaren Honda. Mm-hmm. C'est l'ère,
ouais.
l'ère la plus sophistiquée de McLaren, la plus performante de McLaren. Et après ça, il y a eu McLaren Renault,
ouais.
qui a été so-so, on va se le dire.
Ouais.
Il y a eu l'échec avec... l'échec lamentable avec le regroupement encore McLaren-Honda.
Ouais.
Puis là, on a le retour McLaren-Renault, puis on voit que il y a peut-être des petites améliorations qui ont été faites.
Ouais.
Petits ajustements qui ont été faits, puis je trouve que la voiture a été très performante. Un beau P8 pour Carlos Sainz.
Ah oui, puis en plus, on en parlait aussi. Belle remontée après la sortie de la voiture de sécurité.
Oui.
Un dépassement un peu osé, corsé sur Romain Grosjean.
Ouais.
Lando Norris à l'inverse. Ah oui, puis aussi Carlos Sainz continue de marquer des points en Espagne. Depuis 2015, depuis qu'il est en forme là, en fait, il a marqué des points à toutes les courses à Barcelone. Mais pour la première fois, il a été battu par son coéquipier en qualification qui est Lando Norris.
Oui, mais je pense que aussi Carlos Sainz a eu des petits problèmes au niveau de qualification, puis je pense qu'il était ouais. pas sur la même stratégie non plus.
Non, c'est ça.
Puis Lawrence était peut-être plus un rapport performance, un peu plus un rapport ouais. de vitesse sur des longues distances, puis avec un aérodynamisme un petit peu moins... avec une... comment dire... avec ouais, moins de points de portance, un petit ouais. peu plus, moins de downforce un peu, contrairement à Carlos Sainz, qui l'a probablement désavantagé aussi au niveau des qualifications.
C'est ça, puis Lando Norris, bon, il a abandonné avec l'accrochage avec Stroll, incident de course, mais malheureusement, sa course n'a pas débuté comme prévu, parce que, profitant de la pénalité de 3 places à Daniel Ricciardo, il est passé de 11e à 10e sur la grille de départ.
Exact.
Et il a perdu 7 places oui. au premier tour, donc ça a un peu ruiné d'avance sa course et l'accrochage avec la Racing Point du Québécois Stroll a mis fin à sa journée tout simplement. J'ai pas encore vu... je sais, on enregistre, on est lundi, on enregistre, mais j'ai pas encore vu de mime de la part de notre numéro 4 préféré.
Non, pas encore. Je pense que ça l'a fait un petit peu suer, l'accident avec Stroll, puis je pense que il va essayer de se sortir de là un petit peu plus humble qu'à l'habitude. Je sais qu'il est très fort en autodérision, c'est un classique chez les pilotes de F1, bien,
oui.
Mais je pense que là, ça a été une petite gaffe de course, que je pense que lui, il se met beaucoup de pression là-dessus. Je pense que je pense qu'il trouve que c'est sa faute un peu, mais...
Il est légèrement à se blâmer, tout comme Stroll l'est autant. Là, on va parler de quelqu'un qui fait suer certains, Renault.
Renault, oui. Beaucoup d'écuries font affaire avec les moteurs Renault, mais sont capables de compenser au niveau châssis, au niveau aérodynamique, tout ça. Mais je trouve que Renault, ils ont de la misère avec leur propre écurie. Ils ont de la misère avec leur propre moteur, ils ont de la misère avec leur propre développement aérodynamique.
Ah oui.
C'est décevant, Ricardo P12, Hülkenberg P13, ouais, à 3 secondes de différence. C'est une course entre eux-mêmes.
Ouais.
C'est une course entre eux-mêmes, une course de performance entre eux-mêmes. C'était, pour être honnête, Renault, très, 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 très mauvaise performance.
Ah,
ça va en décrescendo, comme Williams, pour être honnête avec toi. Là.
Ouais.
J'ai vraiment ça comme impression.
Ouais, c'est moins pire que Williams, mais c'est vrai que là, en fin de semaine, rien n'allait. Ricardo, oui, il s'est qualifié 10e. Il lui-même a avoué qu'il aurait pu être 9e. Mais bon, avec la pénalité pour avoir reculé sur la Toro Rosso de Kvyat à Bakou, il est parti 13e, ce qui a un peu ruiné à la limite ses choses. Mais il a fait une belle bataille à Carlos Sainz.
Puis malgré tout ça, il s'est quand même qualifié P10 en qualification.
Ouais.
Puis, tu sais, c'est des bons temps, pareil, tu sais.
Ouais.
Un bon temps en Q2, un 1.17.2.
Ouais.
Un 1.17.3, puis en Q3, une 1.18.1. Tu sais, c'est des bons temps, mais...
Ouais, relativement bon.
Pas assez pour performer. On voit que, tu sais,
entre
son ancienne écurie puis son écurie en ce moment, tu vois, Verstappen, une 16.3, puis lui, il est à une 18. C'est quand même 2 secondes d'écart. Bonnes grosses secondes d'écart entre les deux pilotes, là.
Et pourtant, excuse-moi de te couper, Renault avait amené une évolution moteur, tout comme Ferrari.
Exact.
Mais... Ça n'a pas fonctionné parce que tu regardes. Il était en lutte pour des points, mais la stratégie a été tout simplement ratée. Et d'un autre côté, tu as Nico Hülkenberg qui a fait une erreur en Q1.
Ouais.
Grosse erreur. Qui s'est retrouvé dans le mur au virage 4, a endommagé son aileron avant. On a eu peur pour sa suspension avant gauche.
On a eu la gravelle. Partout sur la piste.
Oui, du gravier partout sur la piste. Bon, il a été éliminé en Q1 avec Stroll, Giovinazzi et les deux Williams. Et en plus, il a été obligé de partir de la ligne des puits parce qu'ils ont dû changer non seulement l'aileron avant, mais les éléments du groupe propulseur. Ça n'a rien fait. Il finit derrière son coéquipier. Et là, Renault est obligé de se gratter la tête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, Ricardo, qui a signé avec Nikira avec l'ambition de les amener vers la 4e place, à la limite se battre contre Red Bull.
C'est pas le cas du tout.
C'est pas le cas.
C'est As qui s'en sort gagnant là-dedans.
C'est As légèrement, mais aussi McLaren.
Toro Rosso
quand ils ne font pas d'erreur. Puis Racing Point quand ça va bien.
Ah, parlant des Racing Point.
Ah oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais, parce que, honnêtement, on a, depuis le début de la saison, on a dit, bon, Racing Point va amener sa nouvelle mouture, son nouveau châssis, avec les nouvelles mises à jour et tout, en Espagne. Mais ça n'a pas fonctionné.
Et P15 pour Perez en course aujourd'hui.
Ouais, et Stroll, bon, il a abandonné, mais les deux Racing Point n'étaient jamais dans le coup. Et pourtant, c'est un circuit qui ne convient tout simplement pas à la RP19. C'est dommage parce que, en plus, les deux avaient marqué des points à Bakou. Perez avait fini 6e.
Exact.
Stroll 9e, si je me trompe pas.
Oui, 9e.
Et là, tu les retrouves au fin fond. C'est
décevant.
C'est décevant, mais je pense que c'est juste une question de s'adapter sur un circuit.
Exact.
C'est la première course avec le nouveau châssis officiellement sous Racing Point, parce qu'il y en a qui disent que bon, c'était encore
Force India,
mais avec le package aérodynamique de 2019.
Mm-hmm.
Mais écoute, là, on s'en va sur un circuit où l'aérodynamique compte encore plus, Monaco. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, fin de semaine complètement à oublier pour Racing Point. Et une fin de semaine où ça a oublié pour l'écurie dont on parle, Alfa Romeo.
Alfa Romeo, oui, P14 pour Raikkonen, puis P16 pour Giovinazzi. Je trouve que Raikkonen, il a bien coursé. Il a bien coursé, je trouve, malgré sa position. Oui, ok, il en a laissé passer une couple. Mais, tu sais, on s'entend que Barcelone, c'est pas un circuit pour tout le monde. Hein? C'est un circuit de vitesse, on s'entend. C'est un circuit de performance. Puis, Alfa Romeo Sauber, je pense qu'elle a un peu de.
Ouais.
Elle a eu un petit peu de difficulté à la course de dimanche.
Mais tu vois, c'est ça. En plus, Raikkonen, pour la première fois, ne marque pas de points pour l'écurie suisse.
Nope.
Giovinazzi, d'abord éliminé en Q1, 18e, pénalisé pour un changement de boîte de vitesse. Ça n'a pas fait grand-chose, mais disons que Raikkonen l'a dit, si je me souviens bien, il a dit que la voiture est beaucoup plus stable que les dernières courses.
Mais je pense que Raikkonen, il y a un jeu de développement chez Alfa Romeo. Je trouve que c'est un pilote d'expérience. Il connaît les voitures, il connaît Ferrari, il connaît comment ça fonctionne chez la famille Ferrari. Puis le fait qu'il y ait un rôle de développement doit probablement aider énormément Alfa Romeo.
Ouais.
Ça m'étonnerait pas que dans un futur proche, ça soit une des écuries les plus performantes aussi. Là.
Ouais, ça va s'en venir. Mais en tout cas, Barcelone, ça n'a pas bien été. Puis non. En plus, je dois me questionner sur la décision d'Alfa Romeo de faire entrer Giovinazzi tôt avec des pneus durs à un arrêt qui n'aura tout simplement pas fonctionné parce que si on élimine. Il est le dernier pilote à finir sur le tour du meneur.
Mm-hmm.
Donc, c'est une course à oublier. Puis en plus, à Monaco, ben, si tu veux un peu plus de stabilité, ben, tu vas être servi. Mais encore là,
c'est vraiment un circuit technique. Fait que c'est vraiment pas besoin d'avoir une voiture performante. C'est vraiment un circuit technique, un circuit de bon appui aérodynamique.
Mm-hmm.
Des virages très, très, très serrés. Puis je pense que peut-être qu'Alfa Romeo va être capable de faire des bons temps avec... s'ils sont capables de trouver un bon rapport au niveau de la transmission, trouver un bon... avoir un bon moteur aussi, parce que on s'entend bientôt, ça va bientôt faire 5 courses, en fait. 5 courses avec le même moteur.
Ouais.
Fait que là, le nouveau moteur rentre à Monaco aussi, on s'entend. Soit Monaco ou soit au Grand Prix du Canada. Puis tu sais, il va y avoir des voitures avec des nouveaux moteurs, plus performants aussi. L'évolution moteur qui s'en vient aussi les prochaines courses, je pense.
Ben, c'est ça. Ben, en fait, je pense qu'Alfa Romeo devrait profiter de l'évolution de moteur de Ferrari. Probablement à Montréal, parce que Monaco, c'est pas un circuit de moteur techniquement.
Ouais, mais Montréal qui est un circuit sur des longues distances, des longues droites, je pense que ça va être un avantage pour eux aussi.
C'est ça. Donc, juste trouver un bon compromis entre la performance, stabilité, et Alfa Romeo va revenir dans le top 10. Williams...
On n'en parlera pas. Hein?
Ben, on va en parler un petit peu, parce que... George Russell, bon, dans les circonstances, a bien fait, parce que Williams a changé le châssis des pilotes. En fait, ils les ont inversés, donc à cause de ce qui s'est passé à Baku avec la bouche d'égout qui a été mal vissée, qui a endommagé le fond plat de la Williams de Russell, ben, finalement, Russell et Kubica ont changé les châssis, donc Kubica, évidemment, s'est qualifié devant Russell qui a eu une pénalité après un changement de composante dû à sa sortie de piste lors des essais du samedi. Mais le Polonais est parvenu à finir derrière son coéquipier. Donc, c'était tout ce qu'il y avait. On n'a pas grand-chose à dire, en fait, à part le fait qu'ils ont fini un tour du meneur.
C'est juste, Williams, c'est décevant, leur performance. Ouais, les cinq courses, c'est l'inverse, littéralement, des Mercedes. Mm-hmm. C'est vraiment la débandade totale. Là. C'est débile, là, ce qui se passe chez Williams. Je pense que... Mais... On va pas mettre ça sur la faute à Claire, mais c'est une drôle de coïncidence que quand elle rentre à la tête de cette écurie-là, tout va pour le pire.
Ben, disons au moins, on va donner un point positif. La Williams, elle est fiable. Elle n'y a pas eu un abandon jusqu'à présent. Ils ont fini dernier à un ou deux tours du meneur, mais au moins, elle finit les courses.
Ouais.
Donc,
c'est un débat qu'on pourrait avoir longtemps.
On pourrait avoir longtemps, mais si on veut voir le verre à moitié plein, on va dire que la Williams, elle est fiable.
Mm.
Bon, maintenant qu'on a fini de parler de Formule 1, Brian, on va introduire une nouvelle chronique à la balado-diffusion du bulletin F1.
Mm-hmm.
Ça s'appelle « En route vers la Formule 1 ». Pourquoi « En route vers la Formule 1 » Puisque lors des fins de semaine de course du championnat du monde de Formule 1, il y a des courses de soutien. On avait parlé il y a deux semaines de Formule 2, mais là, il y a une nouvelle catégorie qui s'est introduite, et c'est la Formule 3. Donc, il y a eu ces deux championnats qui ont eu lieu lors de la fin de semaine de Formule 1, et on va en parler en long et en large lorsqu'il y aura des épreuves, mais qui seront surtout en sol européen. Alors, nous allons commencer tout de suite avec la Formule 2, qui, après... Bahreïn et l'Azerbaïdjan s'arrêtaient pour la première fois en sol européen à Barcelone. Et lors de la course 1, c'est le Canadien Nicolas Latifi au volant de la Dams qui a remporté l'épreuve. Deuxième, c'est le Britannique Jack Aitken sur Campos Racing et le Chinois Guan Yuzhou sur la première des deux Univirtuosi qui complètent le podium. Luca Giotto a terminé quatrième au volant, lui aussi, de la Univirtuosi, mais n'a pas eu la course qu'il espérait. Parti en pole et obtenant les 4 points bonus, justement parce qu'il est parti P1, il a connu un très mauvais départ, alors qu'il a vu son coéquipier Zhou, membre de l'Académie de Renault, prendre les commandes de l'épreuve. Non seulement il y a eu le mauvais départ de l'Italien Giotto, mais il s'est fait taper par le Français Dorian Boccolacci sur Campos. Il a été obligé de s'arrêter au puits pour réparer les dommages. Et heureusement pour lui, la voiture de sécurité est venue au bon moment, puisque entre-temps, la trident du pilote français Giuliano Alesi, fils de l'ancien pilote de Ferrari Jean Alesi, s'est retrouvé dans le sable barcelonais. À la relance, Zhou a gardé sa position aux dépens de Latifi, le meneur au championnat. Mais lorsqu'il y a eu les arrêts au puits obligatoires, parce que lors de la course principale en Formule 2, vous devez vous arrêter pour faire un changement de pneu, eh bien, il y en a qui sont restés, mais Zhou, Latifi et De Vries, Nick De Vries, se sont arrêtés bien plus tôt pour avoir une meilleure performance avec des pneus qui commençaient à chauffer. Pendant ce temps, il y avait Antoine Hubert, le pilote français sur BWT Arden, aux mêmes couleurs que les Racing Point, qui était sur une stratégie de pneus prime option, se rapprochait du pilote suisse Ralf Boschung sur l'autre trident. Et en fait... il allait dépasser pour prendre les commandes de l'épreuve temporairement. Et Jordan King, sur MP Motorsport, prit la deuxième place. Mais il faut noter que Hubert, King et Boschung ne s'étaient pas arrêtés. Et vous aviez Zhou, Latifi et De Vries, ainsi que Aitken, qui s'amenaient graduellement. Mais avec l'expérience de Latifi, Guan Yuzhou devait... faire attention, mais ne plus résister aux attaques du Canadien et dû céder le premier rang officiel, ben, officiellement, parce que les autres ne s'étaient pas arrêtés. Et il était maintenant sous la menace de Aitken pour tenter de garder sa deuxième place, ce qui ne fut pas, puisque le britanno-coréen de Campus Racing, Jack Aitken, le dépassa au virage 1 pour terminer deuxième. Alors, Zhou termina troisième. Luca Giotto, quant à lui, revint jusqu'en quatrième place, ce qui est un baume, considérant qu'il était dernier après le premier tour. Nick De Vries termine cinquième. Antoine Hubert finit sixième. Jordan King, septième. Callum Aylott, a fini huitième, mais comme il a terminé huitième, il partira donc en pole position lors de la course sprint où les positions sont inversées de 1 jusqu'à 8. Sean Gelal sur la Prema Racing termine 9e et Ralph Boschung, le pilote suisse de Trident, complète le top 10 et ceux qui marquent des points. Pour ceux qui se le demandent, Mick Schumacher a terminé 15e, mais il n'eut pas une course facile ou encore moins une fin de semaine facile. Lors de la deuxième course, c'est Callum Aylott qui partait en pole, vu qu'il avait terminé 8e. Mais malheureusement, il a perdu le premier rang, étant donné que la BWT Arden Rose de Antoine Hubert s'est immiscée en tête de l'épreuve, avec Nick De Vries qui partait 4e. Alors, le meneur du championnat, Nicolas Latifi, a perdu sa 8e place au départ de Sean Gelal, qui l'a dépassé au départ. Mais la voiture de sécurité est arrivée tout de suite dans le premier tour lorsque la Carlin du japonais Nobuharu Matsushita a pris feu. Oui, elle a pris feu carrément. Le moteur a explosé. Les commissaires de piste ont été assez rapides pour éteindre l'incendie. Et heureusement, le pilote japonais s'en est sorti indemne. Mais c'était un feu qui n'était pas sans rappeler l'incendie qui a eu lieu chez Williams en 2012, tout de suite après la victoire historique de Pastor Maldonado. Tout de suite à la relance, De Vries, le pilote néerlandais, a tenté une attaque sur Antoine Hubert, mais ce ne fut pas un succès. Au tour suivant, il a inscrit le meilleur tour et il s'est retrouvé dans la zone de DRS à une demi-seconde du français. Il a attendu patiemment, l'a dépassé dans la longue ligne droite de départ-arrivée pour prendre les commandes de l'épreuve. Pendant ce temps, en arrière, il y avait Luca Giotto et Jack Aitken qui se disputaient pour une position. Giotto a dépassé Aitken pour prendre la 6e place. Et pendant ce temps, Guan Yuzhou, le pilote chinois, dépassait Jordan King pour la 4e place. Et avec le dépassement de Zhou sur King, ce dernier s'est retrouvé vulnérable face à Giotto, qui prit la 5e place du même coup. Et quelques tours plus tard, Callum Aylott a pris sa revanche sur Hubert en le dépassant pour la 2e place. Malheureusement, il a dû concéder cette 2e position à Giotto, qui était beaucoup plus rapide que lui. Heureusement, il avait assez de temps pour garder sa 3e place, étant donné que Guan Yuzhou était un peu loin. Alors, De Vries remporte sa première victoire de la saison. Luca Giotto termine 2e. Callum Aylott 3e. Guan Yuzhou 4e. Antoine Hubert 5e. Nicolas Latifi 6e. Jordan King 7e. Mick Schumacher 8e. Jack Aitken 9e. Et Sean Gelal, 10e. Par contre, Schumacher s'est pris une pénalité de 5 secondes pour avoir rejoint la piste de manière dangereuse. Évidemment, il était revenu directement sur la ligne de piste après le virage 2, contrairement à ce que Grosjean a fait deux fois lors de la course de dimanche en Formule 1. Au classement des pilotes, Latifi reste premier avec 93 points, suivi par Luca Giotto à 67. Nick De Vries, avec sa victoire, monte 3e et il compte 63 points, soit un point de plus que Jack Aitken avec 62. Et Guan Yuzhou a 34 points. Au classement des constructeurs, Dams est premier avec 126 points, soit 25 de plus que Uni Virtuosi Racing. La prochaine course aura lieu dans les rues de Monaco, où ça promet d'être excitant. Ça, je peux vous le garantir. Outre la Formule 1 et la Formule 2, cette fin de semaine, il y avait le tout nouveau championnat de la FIA, la Formule 3. Bon, en fait, nouveau, parce que c'est un championnat qui est, comme on l'expliquait un peu en début de segment, qui fait maintenant partie de l'échelle Road to Formula 1, où il y a la Formule 1, la Formule 2, la F3 et la Formule 4, qui sont généralement des championnats régionaux. La Formule 3 de la FIA est en fait un mélange de l'ancienne série GP3 et la Formule 3 européenne. Donc, on voulait vraiment uniformiser le tout avec, évidemment, des voitures de type Formule 3 plus modernes, avec un halo, entre autres, un châssis Dallara au moteur V6 3.4 litres atmosphérique qui comporte, évidemment, des pneus Pirelli. Le championnat a débuté en Espagne, mais se déroulera principalement sur les circuits européens de la Formule 1. Donc, il y a eu l'Espagne. La prochaine épreuve aura lieu en France, sur le circuit Paul Ricard. Ensuite, fera un tour en Autriche, en Grande-Bretagne, en Hongrie, Belgique, Italie. Et la saison se terminera en Russie. Il y a deux courses, la principale, ou la feature, et la course sprint qui a lieu le dimanche. La première course de la saison avec 30 voitures, oui, ben, il y a eu 30 voitures, c'est quand même beaucoup. Hein?
C'est énorme.
Ben oui. C'est le pilote Robert Schwartzman qui a gagné devant Christian Lundgaard et Marcus Armstrong qui complètent le podium. Mais en vérité, ce n'était pas l'ordre exact à la ligne de départ arrivée. Brian, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé?
Dans le fond, le pole sitter qui était Lundgaard, qui était au départ, était en fait mené la course au départ, a eu une pénalité de 5 secondes vu à un non-respect du règlement du Virtual Safety Car. Ça s'est avéré que le pilote en arrière de lui avait un écart de 5 secondes, moins de 5 secondes. Il y avait un écart de moins de 5 secondes. Puis c'est arrivé, c'est que quand il est arrivé au niveau...
Au parc fermé,
un petit peu cocasse, oui. Il y a eu un échange des tableaux, de positionnement qui a été fait à la fin de la course. Fait que c'était Schwartzman qui s'est ramassé premier, en fait qui a terminé premier au classement.
Officiellement.
Puis Lundgaard que lui a été pénalisé de 5 secondes, ce qui a fait en sorte que, c'est ça, ben les temps étaient de 37-40. Au départ, c'était 37-39 pour Lundgaard, puis avec sa pénalité de 5 secondes, il s'est ramassé avec 37-44, qui a fait en sorte que Schwartzman a terminé 37-42, qui a fait en sorte qu'il a terminé premier.
Et en plus, c'est pas le seul à avoir été pénalisé à cause de non-respect des règles de la voiture de sécurité virtuelle. Il y a Richard Verschoor et Tepi Natori qui ont été pénalisés de 5 secondes aussi pour non-respect de la procédure de la voiture de sécurité virtuelle. Donc, je pense que c'est quoi? Il avait pas bien ralenti selon le delta?
Non, exactement. Il avait pas laissé son delta assez... la distance entre les deux véhicules assez grande pour la voiture de sécurité. Puis ça a fait en sorte qu'il ait été pénalisé de 5 secondes. Il y en avait deux autres aussi qui ont été pénalisés pour avoir mal rejoint la piste. En fait, ils ont rejoint la piste de façon non sécuritaire. Mm-hmm. Donc, Raoul Hyman puis le Chinois Yifei Ye, qui ont eu 5 secondes de pénalité aussi pour ne pas être retournés sur la piste de façon sécuritaire.
Ok, donc un peu, ils n'ont pas suivi l'exemple de Romain Grosjean. Hein?
Non, vraiment pas.
Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il y a des règles en Formule 1, c'est pour éviter ce genre de trucs.
Ben, tout dans toutes les courses, il y a des règles pour ça.
Ouais, exactement. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Et lors de la deuxième course, qui a eu lieu dimanche, la sprint, c'est Yaron Daruvalla sur Prema qui a remporté l'épreuve devant l'Estonien Juri Vips chez Hi-Tech et le Finlandais Niko Kari. Schwartzman a fini quatrième, tandis que Lundgaard, lui, a complété l'épreuve en sixième place. Et on avait aussi un Canadien, Devlin DeFrancesco, qui a fini 20e lors de cette épreuve. Puis la prochaine épreuve aura lieu les 22 et 23 juin au circuit Paul Ricard lors du Grand Prix de France.
Wouhou!
Alors, c'est tout pour l'épisode numéro 4 ou l'épisode Lando Norris du Bulletin F1. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur Balado Québec ou sur n'importe quelle plateforme de balado diffusion préférée. L'épisode sera aussi sur bulletinf1.com où vous pouvez aussi retrouver le bulletin de notes du Grand Prix d'Espagne. Brian, merci encore.
Hein. Merci à toi, Abdou.
Donc, on se revoit pour le Grand Prix de Monaco.
Exact, dans 2 semaines.
Dans 2 semaines. Puis, en plus de ça, en plus du Grand Prix de Monaco, on va parler des 500 000 d'Indianapolis, parce que tu sais pourquoi on en parle?
Parce que Nando va faire partie!
Oui, Fernando Alonso sera des 500 000 d'Indianapolis.
Avec Marcus Ericsson aussi.
Ah oui, c'est vrai, Marcus Ericsson qui sera là. Et Alonso, évidemment, est dans la chasse à la triple couronne. Donc, on reviendra là-dessus. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler de l'actualité de la Formule 1. Alors, merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1.